Bonjour la France.
Bonjour à tous, bonjour France Culture.
Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte.
Et on retrouve tout de suite Géraldine Mostasavoie pour Sans oser le demander.
Se lever, se doucher, avaler un café, regarder son téléphone, arriver au travail, fumer une cigarette, re-regarder son téléphone, déjeuner, encore avaler un café, refumer une cigarette, travailler, parler, rentrer, manger, ranger, refumer une cigarette, regarder son téléphone, aller se coucher et recommencer. Vous aussi, vous avez l'impression de vivre et revivre toujours la même journée ?
Et au Laker, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami.
Faites gaffe, vous repassez la bande d'hier.
Le problème de circulation ce soir avec ce... Comment déjà ? Ce blizzard. Oui, mais une question majeure est sur toutes les lèvres.
Les lèvres gercées.
Les lèvres gercées.
Bonjour. Nous allons voir la marmotte.
Oui.
À quand le printemps, à votre avis ?
On n'a pas déjà fait ça hier ?
Excusez-moi, je ne comprends pas, là.
Porky, je te fous pas de moi. Dis-moi quel jour on est.
Le 2 février, voyons. Le jour de la marmotte.
C'est drôle, je croyais que c'était hier.
Oh, vous avez bien dormi, monsieur Connors.
Si j'ai bien dormi.
Voulez-vous un peu de café?
Oui, merci. Je vais même en prendre un double.
J'espère que vous allez bien vous amuser. Il paraît qu'il va y avoir un blizzard.
Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster ?
Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine.
Pas la peine, merci.
Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes neurologue à la Salpêtrière, professeur à Sorbonne Université, chercheur à l'Institut du Cerveau et essayiste. Vous êtes l'auteur de Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde, disponible aux éditions Odile Jacob, mais aussi du cinéma intérieur projection privée au cœur de la conscience, disponible aussi aux éditions Odile Jacob. En 1993, il y a donc 30 ans, sortait ce film mythique, Un jour sans fin. C'est un film de Harold Ramis avec Bill Murray. Bill Murray, je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ne l'ont pas vu, il interprète Phil Connors, qu'on a entendu, qui n'a pas l'impression de vivre et revivre la même journée, mais vit et revit objectivement la même journée. Pourquoi a-t-on cette impression, même sans être dans le cauchemar de Phil Connors, Lionel Nakache ?
Alors, on peut l'avoir de plusieurs manières différentes, je dirais. Celle qui nous est la plus familière comme neurologue, c'est un phénomène qui est en général assez rare, mais dont tout le monde a fait l'expérience. C'est vraiment ce qu'on appelle le déjà vécu ou le déjà vu. Et donc là, évidemment, ça se distingue pour l'instant de l'objet du film, puisque dans ce cas-là, c'est une expérience en général très individuelle. On a vraiment l'impression, dans une durée très brève, que la scène, la micro-scène qu'on est en train de vivre, on l'a déjà vécue. Donc, je ne sais pas, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, ça arrive,
oui.
C'est quasiment universel. Et d'un point de vue neurologique, c'est intéressant. On peut dire, déjà pour rassurer tout le monde, que, excepté si ça se passe des centaines de fois dans la journée, il n'y a pas besoin nécessairement de consulter. Mais par contre, ça peut être déjà un point intéressant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on développe cet
Allez-y,
aspect-là.
Oui. Mais oui, qu'est-ce qui se passe dans le déjà-vu ?
Parce que c'est une bonne manière déjà d'illustrer aussi, vous savez, peut-être l'apport de la neurologie, de la neuropsychologie à la compréhension de l'esprit. C'est une première chose, c'est ce qu'on appelle la dissociation, un peu le mécano de la pensée. C'est-à-dire qu'en gros, derrière des phénomènes qui nous apparaissent subjectivement unitaires, notre identité subjective, notre mémoire, etc., notre perception, en fait, les pannes du cerveau, les maladies neurologiques ou psychiatriques vont nous montrer que derrière cette unité apparente, il y a en fait une sorte d'assemblage de processus qui sont plus ou moins séparables, clivables, indépendants les uns des autres. Quand nous sommes en bonne santé, tout ça fonctionne de manière un peu comme une sorte d'orchestration qui donne une impression d'unicité du phénomène. Et pour être très précis, par exemple, quand vous voyez un visage, eh bien, il y a deux grandes voies cérébrales. Il y a une grande voie qui est spécialisée dans le traitement de l'identité du visage. C'est le visage de qui ? Et puis, il y en a une autre qui n'est pas la même, qui est spécialisée dans le codage de la familiarité. Est-ce que c'est un visage que je connais ou pas ? Et du coup, en neurologie, on peut avoir l'occasion d'explorer des patients qui ont des pannes dans un des deux circuits, pas nécessairement
les deux. Donc, soit d'identification, soit de familiarisation.
Exactement. Donc, évidemment, quand quelqu'un a une panne dans une lésion de l'identification, c'est ce qu'on appelle la prosopagnosie. C'est la perte de la reconnaissance des visages. ne plus savoir reconnaître un visage. Mm-hmm. Vous vous souvenez Oliver Sacks, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mm-hmm. C'était un des cas cliniques qui était dans ce recueil magnifique. C'était un patient prosopagnosique, donc qui ne reconnaît pas des visages. Voilà. Mais on peut montrer chez ces patients que la plupart d'entre eux, si on recueille des mesures de familiarité, par exemple leur transpiration, leur respiration, leur dilatation pupillaire, on voit que lorsqu'on leur présente des visages qui leur sont familiers mais qu'ils ne reconnaissent pas, le système de la familiarité continue à fonctionner et ils ont des indices physiologiques de familiarité.
Donc par exemple, comme dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, où on a des patients atteints de cette maladie qui ne vont pas forcément reconnaître leurs compagnons ou leurs enfants,
mais vont
quand même parler d'un partenaire proche.
Ou ressentir et faire une expérience d'une familiarité, parce que vous avez raison, dans ces maladies, heureusement dans les phases débutantes, mais dans les phases avancées, il y aura une atteinte de ces systèmes-là. Et le symétrique est plus rare, mais j'en dis juste un mot parce qu'il est absolument fascinant, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras, ou le délire des sosies. C'est-à-dire que vous allez cette fois-ci avoir l'inverse. Vous allez reconnaître le visage de la personne qui vous est familière, mais vous n'aurez plus de familiarité. Et donc, vous devez vous retrouver à gérer deux informations contradictoires. C'est le visage de mon conjoint, mais je n'ai aucune impression de familiarité. Et donc, l'interprétation qui est préparée en coulisses de manière non consciente, c'est que dans ce cas-là, ça s'appelle un sosie. C'est un usurpateur, c'est un faux, ce n'est pas le vrai. Le délire des sosies, Capgras, Roboul, etc. Et on voit ces situations-là. Donc, vous voyez, pour appliquer et revenir au déjà vécu, eh bien, lorsqu'on vit quelque chose, il y a à la fois des systèmes qui vont nous permettre d'identifier ce qu'on est en train de vivre, et d'autres qui vont être capables de coder une familiarité. Et parfois, pour des raisons qu'on s'explique mal, on va avoir le système de familiarité qui se met en branle tout seul. Et donc, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est la première fois que vous vivez, mais comme il y a votre système de familiarité, vous avez une impression de déjà vécu, de déjà vu. Et ça peut aller subjectivement tellement fort que quand on vit ces moments-là, on a l'impression qu'on est même capable d'anticiper ce qui va se passer dans l'instant suivant, ce qui est évidemment très difficile à tester parce que cette temporalité subjective, elle est très 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 brève et beaucoup plus longue que la temporalité objective. Donc, d'arriver à faire des expériences qui nous permettent de voir à quel point quelqu'un est véritablement capable d'anticiper ce qui va se passer ou pas, sont des expériences difficiles à conduire, mais en réalité, on ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas évidemment de la parapsychologie.
Sur la question du déjà-vu ou du déjà-vécu, qui nous permet quand même de bien introduire cette discussion sur la répétition, dans le cerveau et l'impression de répétition, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui se produit dans le cerveau? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelque chose que la personne a vécu dans le passé qui ressemblerait, qui serait familière avec ce qu'elle est en train de vivre?
Pas nécessairement. Non, ça peut vraiment se jouer de manière totalement aléatoire et que simplement votre système de familiarité se met à répondre, à s'activer.
Vous, par exemple, comment vous faites en tant que neurologue vous avez quelqu'un avec qui vous
suivez? Alors, vous interrogez la personne.
La personne. Et qui se rappelle d'un déjà-vu, mais comme les déjà-vus ne sont pas anticipables, comment on peut faire pour avoir quelqu'un qui
tout d'un coup a un déjà-vu? Les gens vous les rapportent, dire, vous savez ce qui m'est arrivé, etc. Dans ce cas-là, il y a tout un art du recueil du vécu subjectif. Et puis, à nouveau, vraiment pour ce point très précis, ce qui est la seule chose qui peut vraiment être inquiétante, c'est si ça se répète de manière extrêmement fréquente. Et dans ce cas-là, il y a une des causes de ça, c'est que cette activation involontaire du système de familiarité, elle peut être provoquée par des petites crises d'épilepsie. Pas les crises d'épilepsie habituelles que tout le monde connaît, sans convulsions, sans perte de connaissance et tout, mais simplement une petite crise dans les régions temporales internes qui peut donner. Voilà. Donc ensuite, évidemment, on est loin de tout comprendre, mais simplement, de manière empirique, on sait quelles sont les formes qui doivent être inquiétantes et celles qui sont au contraire, qui font partir, on pourrait dire, de la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est normal d'avoir parfois des sortes de petits bugs sans qu'on puisse bien se les expliquer. Mais il ne s'agit pas à nouveau du scénario de ce film, évidemment.
Voilà. Parce que là, lui-même demande, dit, est-ce que vous connaissez l'effet de déjà-vu? Phil Connor a l'impression de revivre exactement la même journée. Ça n'est pas une impression, j'ai dit, il la revit vraiment. Est-ce que ça n'est pas ce qu'on vit au quotidien, indépendamment de ces petits moments de déjà-vu,
déjà-vécu?
Voilà, c'est
pour ça que je pense que ça, c'est un autre niveau de répétition. C'est une impression d'avoir une vie qui est enfermée dans ce que vous disiez de manière extrêmement brillante et amusante, la répétition de même micro action et d'avoir l'impression d'une existence qui est complètement enfermée dans ce type de motif. Alors, je dirais que là, de ce point de vue-là, c'est pas tellement la neurologie classique qui va nous intéresser, parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire. C'est plus peut-être les représentations qu'on peut avoir nous-mêmes de notre existence, des facteurs de motivation, des facteurs de surprise. Et ça peut nous renvoyer peut-être justement à un autre thème important, c'est la tension entre la nouveauté et le familier, et quelque chose qui est maîtrisé, on pourrait dire, de s'exposer à du nouveau et d'être capable d'affronter de la nouveauté, ou bien être enfermé dans des repères, dans des rituels, dans des choses qui nous rassurent, parce qu'on connaît par avance comment ça va se passer. Et on voit bien, alors peut-être que là c'est vrai que la neurologie peut être intéressante, c'est que dans beaucoup d'affections neurologiques, une des premières choses qui va disparaître, c'est la capacité à affronter la nouveauté. C'est-à-dire que pour nous, affronter la nouveauté, pour chacun d'entre nous, en bonne santé...
Au fur et à mesure où on vieillit aussi,
ouais,
non
ouais. Oui, vous avez raison.
Quand on est petit, on ne fait que ça.
Alors, on ne fait que ça, oui et non, parce que par exemple, dans l'enfance, les rituels des enfants, le fait de devoir répéter, de devoir tenir à des objets, à des peluches, de répéter au moment du coucher, des scènes extrêmement ritualisées, ou de tenir à une histoire ou quelque chose, on voit bien qu'au contraire, même chez le petit enfant, il y a beaucoup, je dirais au contraire, que cette capacité à affronter la nouveauté, c'est pas vraiment chez le petit enfant qu'elle est la plus élaborée, mais qu'en tout cas, à tout âge de la vie, c'est un coup, c'est un effort en fait, d'affronter quelque chose de nouveau, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui risque de nous faire sortir de nos modes d'appréhension usuels. Donc on a, de manière intrinsèque, et en sachant que les deux extrêmes ne sont pas tellement viables, être enfermé dans une répétition totalement stéréotypée, c'est évidemment sans horizon, mais inversement, ne pas avoir un cadre qui permet de structurer des expériences, des identités même, etc. Eh bien, c'est aussi difficile. Donc ce thème-là, il illustre peut-être ça. C'est le fait qu'on a besoin d'être quelque part à cheval, un peu entre ces deux extrêmes, entre ces deux pôles.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de répétitions, vous l'avez dit, hein, Lionel Nakache, il y a celle dans l'éducation, il y a celle politique de l'organisation sociale, économique, de nos vies travaillées ou pas travaillées, de l'allongement, on en parle avec la réforme des retraites, de travailler jusqu'à 64 ans, et puis il y a aussi quand même la répétition du cerveau. Est-ce que le cerveau a besoin de répétition pour appréhender le monde qui nous entoure? Est-ce que, par exemple, moi, mon cerveau doit avoir besoin d'un décor similaire, de journées organisées, ritualisées, pour pouvoir percevoir adéquatement les choses?
Alors, c'est difficile de vous répondre en une seule phrase.
Vous pouvez en faire plus.
Mais je peux en faire plusieurs, voilà, sans me répéter. Première chose, c'est qu'évidemment, ne serait-ce que, par exemple, dans l'usage du langage, on va chercher en permanence à pouvoir extraire dans un discours des régularités, des choses qui sont connues, des briques, des repères qui, à partir desquels, on va construire, on va percevoir des mots, du sens. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'ordre. Si on était totalement dans une vie totalement aléatoire, on ne pourrait rien faire du tout. Donc, il y a un besoin d'ordre, on pourrait dire. Donc, évidemment, ça, c'est vrai pour le langage, mais c'est vrai également pour d'autres expériences. Vous parliez des lieux. Les lieux, quant aux lieux, je ne crois pas que ce soit tellement la répétition d'un même cadre qui est important, mais on a découvert, c'est une des découvertes vraiment les plus essentielles, à mon sens, des neurosciences de la fin du XXe siècle, c'est qu'en fait, il y a des rapports extrêmement intimes entre la mémoire de notre vie et aussi entre notre identité subjective et la mémoire des lieux. C'est-à-dire qu'en réalité, le système qui nous permet de nous localiser dans l'espace, système cérébral, une sorte de GPS vraiment cérébral, il est important non seulement pour pouvoir s'orienter dans les lieux, mais également pour pouvoir mémoriser ce qu'on a vécu là où on était quand on a vécu ce qu'on a vécu.
Ce qu'on appelle par exemple une mémoire photographique
Alors c'est plus que ça, non, c'est vraiment qu'on a un système. Il y a eu un prix Nobel en 2014 qui a été accordé au couple Moser et à un collègue anglais qui avait le premier des années 70 découvert les bases de ce système. On a des neurones de lieux Donc ce système-là, il a besoin que les lieux ne soient pas des lieux qui soient indifférenciés, qui soient totalement symétriques, dans lesquels on ne se répète pas. Autrement dit, pour répondre à votre question, je pense qu'on a besoin de vivre dans des lieux qui sont différenciables, c'est-à-dire de pouvoir savoir où on est. Ça nous permettra de mieux mémoriser ce qu'on vit, pas seulement de mieux s'orienter dans le lieu. Alors ce n'est pas exactement la répétition, mais ça nous renvoie vers une sorte de structure différenciable dans laquelle on peut se repérer. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Je pense qu'il y a des aspects de motivation, d'humeur aussi. Parce que dans notre existence, on est capable à chaque instant de ne percevoir qu'une fraction infime de ce qu'il y a autour de nous, en fait. Si on faisait même, on fait ça au laboratoire, mais si on faisait des sortes d'expériences un petit peu qui ressemblent à des jeux presque, il y avait des jeux télévisés dans les 70 comme ça, avec le gras et tout, vous parlez à quelqu'un, puis vous changez des pans entiers du décor, vous pouvez ne pas vous en rendre compte du tout. Ce qui est une façon de dire, non pas que c'est amusant, mais c'est qu'on ne perçoit qu'une fraction infime. Donc, pour revenir à votre question, on pourrait dire que c'est étonnant que lorsqu'on a cette impression de répétition, c'est peut-être aussi lié au fait que nous allons chercher uniquement toujours la même portion infime dans ce qui est là, alors qu'on aurait moyen de saisir beaucoup d'autres choses, parce que, comme vous le disiez, la répétition n'existe pas en neurologie.
C'est vrai que c'est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, on va y revenir, comment se fabrique cette impression de... peut-être pas de répétition, mais en tout cas de continuité d'une journée à l'autre, et en même temps, cette lassitude de cette répétition, c'est-à-dire que cette répétition, à la fois on en a besoin peut-être pour s'ordonner, se structurer, vous avez parlé de structure et d'ordre, Lionel Nakache, et en même temps, on suffoque de cette répétition, on n'en peut plus de refaire les mêmes journées.
Absolument, c'est fascinant, je crois qu'il y a... Alors évidemment, il y a peut-être récemment, là, je crois que le moment du déconfinement, ça a été aussi une occasion, évidemment, de vivre, de faire toute cette expérience-là. Alors là, c'est plus tellement des neurosciences, c'est plutôt vers votre domaine, c'est plutôt de la philosophie. Mais moi, j'en vois bien quelque chose aussi, une partie, en tout cas, du phénomène explicable par une sorte d'utilisation de l'idée du divertissement pascalien. L'idée qu'en fait, notre existence du matin au soir, elle est en fait assez structurée par des motifs qui vont se répéter, mais qu'une manière d'échapper à cette répétition, à cette sorte de méta-répétition, c'est de la remplir de plein de choses qui donnent une apparence de nouveauté, mais qui n'en sont pas vraiment. Et que donc, quand vous supprimez cette apparence de la versatilité d'une vie, mais qui n'est en fait pas versatile, qui est très régulière, du coup, vous faites tomber un peu le rideau, vous perdez un peu de cette composante de divertissement, et vous retombez face à votre existence horloger, qui en fait, qui peut paraître assez banale, un peu démoralisante. Donc, ce qui voudrait dire qu'une manière de décorer cette répétition fondamentale de l'existence, ça serait une forme d'échappement, une sorte d'échappatoire à cette angoisse, qui est peut-être notre condition, c'est que malgré tout, on répète des choses, on se réveille et on se couche, voilà, entre les deux.
Ou alors, on n'est pas assez capable d'être ouvert à la nouveauté, comme vous l'avez
exactement.
Dit.
Exactement.
Ouais,
donc, ça donne ces différentes dimensions. Alors, vous parliez effectivement de la continuité. C'est vrai que je pense qu'une de ces idées, c'est ça, c'est que qui peut être reliée, c'est que on a une intuition naturelle de continuité au sens vraiment mathématique du terme, à la fois de l'espace dans lequel on vit. Donc, on a vraiment l'impression qu'on vit dans un espace continu, dans l'espace un peu d'Euclide, on pourrait dire, qu'on apprend tous à l'école, au collège, au lycée. Mais également un temps subjectif et un temps très continu. Donc, on serait en continuité avec celui qu'on a été ou celle qu'on a été hier, ce matin, il y a 5 ans, etc.
Il y a 2 minutes.
Il y a 2 minutes. Et donc, ce qui veut dire qu'évidemment, dès lors qu'on introduit cette notion de continuité, ça va pouvoir participer à ce sentiment de répétition, d'avoir l'impression qu'en fait, on n'échappe pas à un seul et même destin qui se déploie comme une ligne. Alors qu'en fait, on a énormément d'arguments, et c'est ce que je développe dans ce dernier livre, l'apologie de la discrétion. C'est pas un malentendu, c'est un jeu de mots sur discrétion, c'est pas la définition psychologique du terme, mais c'est l'aspect mathématique discret. Mm-hmm. C'est qu'en fait, notre existence, elle semble beaucoup plus structurée de manière discrète, c'est-à-dire comme un enchaînement de petites briques, les unes après les autres, mais qui sont en contiguïté les unes avec les autres, mais qui ne sont pas en continuité. Autrement dit,
donc contiguïté qui sont collées,
qui se touchent, qui sont collées,
mais qui n'ont pas forcément de lien de cause à effet.
Alors de cause
à
effet, il y aurait une causalité, mais simplement, par contre, vous savez, la façon la plus, je pense, simple d'appréhender cette idée, c'est celle des nombres. C'est que quand on apprend les ensembles de nombres au collège, au lycée, eh bien, on a des ensembles comme les entiers naturels, qui sont des ensembles de nombres discrets dans lesquels la définition, le critère fondamental, c'est qu'entre deux nombres voisins, bah, il y a juste la frontière entre ces deux nombres. Entre 2 et 3, il n'y a pas d'autres nombres. Alors que dès lors que vous basculez dans un ensemble continu, comme l'ensemble des nombres réels, par exemple, eh bien, entre ces mêmes nombres 2 et 3, dès lors, vous allez pouvoir loger une infinité d'autres nombres.
Donc 2,1, 2,12,
voilà,
etc.
Mais même entre 2 et 2,1, évidemment, indéfiniment, en fait, dans cet ensemble continu, deux nombres voisins, ça ne veut rien dire. Vous avez toujours une infinité de nombres entre deux nombres. C'est-à-dire qu'en réalité, la notion de frontière, donc d'individualité, d'atome, si vous voulez, d'où l'aspect brique discrète, a disparu.
Mais c'est vertigineux.
C'est vertigineux. Et les mathématiques du discret et du continu, je pense, peuvent être extrêmement intéressantes, peuvent être mobilisées pour penser cette façon de nous représenter nous-mêmes le temps et l'espace comme quelque chose de continu, à ce sens qu'on vient de décrire. Et dans ce cas-là, on n'échappe pas à quelque chose qui est unique, versus, au contraire, une sorte de mosaïque d'une vie. On peut se définir soi-même comme un ensemble discret. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis une suite de mosaïques que je ne suis rien. Je suis un ensemble discret. Et dès lors qu'on voit les choses comme ça, ça peut nous rendre déjà plus optimistes. C'est pas un manuel de bien-être, hein.
Disons que c'est ni l'illusion d'être uni, ni l'illusion de n'être que dispersion.
Exactement, exactement.
Je t'écoute, j'espère que tu as une bonne raison de ne pas pouvoir travailler.
Rita, je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Le jour de la marmotte, aujourd'hui.
Très bien, dis-moi où il faut rire.
Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est la 3e fois. Comme si j'étais hier au lieu de demain.
J'ai beau faire de mon mieux, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse monter un bateau pareil.
Ce n'est pas un bateau, je t'en prie, je te demande de m'envoyer une bouée.
Alors, dis-moi ce que je peux faire pour toi.
Mais j'en sais rien! Tu es productrice, tu trouveras bien une idée.
Tu veux mon avis? Je crois que tu devrais aller te faire examiner si tu espérais me faire gober de telles idioties, Phil.
Bien, pas de tumeur, pas de taches, pas de lésions, pas de caillots, pas d'anévrisme. Savez-vous ce qu'il vous faudrait, monsieur Connors?
Une biopsie,
un psychiatre.
C'est inhabituel comme problème, monsieur Connors. Je m'occupe principalement de couples, de familles. J'ai également un alcoolique.
Vous avez étudié, vous avez appris. Et pas la psychologie vétérinaire, j'espère. On a dû vous donner
au moins un cours qui parle de ça.
Oui, enfin, plus ou moins, en quelque sorte. En psychopathologie.
Alors, je dois faire quoi?
Nous devrions nous revoir. Demain, ça vous conviendrait, hein?
Phil Connors explique donc son problème dans Un jour sans fin. Il vit toujours la même journée. Il l'explique à sa productrice Rita, interprétée par Andie MacDowell. Il voit un psychiatre qui est complètement dépassé. Lionel Nakache, ce que vit Phil Connors souligne bien la dimension, on l'a dit, répétitive et continue de nos existences. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement quand on perçoit le monde? D'où vient cette impression de continuité? Et j'ajoute tout de suite une deuxième question. Est-ce seulement une impression?
Alors, merci. Et je crois que ce n'est pas qu'une impression. Derrière, il y a quelque chose, une propriété fondamentale de notre esprit et du fonctionnement de notre cerveau, qui est la suivante. Et que j'aime bien rapprocher ça vraiment d'une, plus qu'une image, en fait, d'une analogie cinématographique. Et vous savez bien qu'au cinéma, en fait, je me répète un peu justement, mais la magie du cinéma, pour moi, c'est la chose suivante. C'est que vous êtes dans une salle, on vous projette sur un écran une suite d'images fixes. Donc si on revient à ce qu'on disait juste avant cet extrait, c'est une suite d'images discrètes. Il y a une image, deux images, trois images, le fameux 24 images secondes. Mm-hmm. Mais ce dont nous faisons l'expérience comme spectateurs, ce n'est pas d'une suite stroboscopique d'images, mais c'est d'un film continu, au sens vraiment qu'on a développé avant aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, déjà, c'est-à-dire que le film que vous percevez dans une salle de cinéma, personne ne vous l'a montré, c'est vous qui l'avez construit. On vous a fait percevoir des images discrètes, et vous avez perçu un film continu. Ce qui veut dire déjà, c'est une manière de révéler que notre esprit dans la perception visuelle transforme du discret, en tout cas au cinéma, en du continu.
Enfin, vous dites en tout cas au cinéma, mais...
Ça va être plus que ça, exactement. Voilà. Mais en tout cas au cinéma, c'est certain, puisque on sait en dispositif ce qu'on fait rentrer dans les rétines des sujets. On vous envoie 24 images fixes, et puis où. Et d'ailleurs, il y a des astuces pour se rendre compte de ce type de mécanisme. Vous savez, par exemple, quand on voit une roue qui tourne à l'envers dans un film, on peut facilement l'expliquer par la vitesse de la roue, l'échantillonnage de la caméra, donc pour pouvoir déterminer entre deux images successives comment la roue aura tourné. Et puis comme nous construisons ce film continu en minimisant les déplacements des rayons de la roue, on peut facilement expliquer dans quelle situation on va voir une roue tourner à l'envers ou à l'endroit. Alors vous pouvez me dire c'est fantastique, c'est magique, mais c'est au cinéma. Mais là où ça devient, où ça décolle, et on le sait depuis la fin des années 60 et surtout les années 90, c'est que même lorsqu'on est en lumière naturelle, donc pas au cinéma, on voit aussi parfois des roues qui tournent à l'envers. Donc la prochaine fois, vous allez sur le périphérique ou faites attention aussi pour les auditrices, les auditeurs. Mais en fait, on a tous eu. Et le fait de voir des roues qui tournent à l'envers, pas au cinéma, mais en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, la caméra, c'est vous. Le projecteur, c'est vous. C'est-à-dire qu'en réalité, on a beaucoup d'arguments pour penser que notre perception, comme vous le disiez, pour revenir sur le résultat que vous énonciez, ce n'est pas la perception continue quelque chose. C'est une saisie discrète de quelque sorte d'instantané. Et qu'on va mouliner en un film subjectif continu. C'est-à-dire que la perception du mouvement que nous avons, elle est entièrement construite par notre cerveau.
Mais on est d'accord que, parce qu'il faut distinguer plusieurs niveaux dans cette perception, Lionel Nakache, on est d'accord que la roue tourne.
Je ne parle même pas
de sens, tiens à quelque chose de basique.
Bien sûr, bien
la
sûr.
Roue tourne.
Oui, je ne suis pas en train de mettre en cause la réalité objective de la rotation de la roue.
Voilà, donc la roue tourne.
Absolument.
Nos yeux perçoivent cette roue qui tourne, mais ils ne la perçoivent pas telle qu'elle.
Exactement.
C'est nous qui, après, avec notre cerveau, reconstruisons cette perception-là.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons comme des captures d'écran, entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on saurait faire sur un ordinateur aujourd'hui, mais c'est comme des captures d'écran de ce mouvement de la roue qui est réel, comme vous le disiez. Il ne s'agit pas de remettre en cause.
Quand on fait un parallèle entre le film, le cinéma intérieur, c'est ce dont vous parlez, Lionel Nakache, et la perception du monde, ce n'est pas pour dire que tout n'est que fiction.
Ah non, pas du tout.
Tout n'est que construction. Enfin, il y a de la construction, mais ça ne veut pas dire que c'est du fake, du faux.
Non, c'est pas de la construction à partir de rien.
Voilà.
Et absolument, c'est très important de le rappeler. Mais simplement, par exemple, une roue. Donc, il y a plusieurs conséquences. La première, que je trouve extrêmement profonde et même émouvante, c'est-à-dire que notre perception du mouvement, qui existe, comme vous le disiez, le mouvement existe, mais notre perception du mouvement n'est jamais le mouvement lui-même. C'est une construction autour de ce mouvement que nous avons pu inférer. Donc, par exemple, on prend l'exemple très bête de la roue. Eh bien, une roue qui tourne, si on prend des saisies d'écran, un peu d'images fixes toutes les 24 par seconde ou 10 par seconde.
Si je mets pause tout le temps sur mon écran.
On prend 10 images fixes de cette rotation. Eh bien, notre esprit-cerveau, on peut l'appeler comme on veut, va interpoler ce qu'il y a entre ces images fixes et construire un mouvement à partir de ça. Et ce mouvement-là n'est pas nécessairement le même que celui qui a eu lieu à l'extérieur. Par exemple, si la roue fait un tour parfait, vous allez voir une roue fixe. Donc votre est-ce que il y a aussi un autre point à préciser très important, c'est quand on dit nous construisons, le nous il faut l'interroger. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas conscient. C'est bien pour ça que c'est difficile de s'en rendre compte.
C'est notre cerveau.
Voilà, c'est notre esprit-cerveau, notre cerveau. Parce que ça, on sait, alors sans être nécessairement freudien, mais on sait même depuis longtemps avant Freud qu'évidemment, une grande partie de notre vie mentale n'est pas consciente, au sens où n'est pas rapportable subjectivement à la première personne. Et ça, évidemment, les rouages de cinéma intérieur, pas tous, mais une grande partie de ces rouages, et comme ceux qu'on évoque là, ne sont pas du tout conscients. Et même sont plus que ça, on appelle ça cognitivement impénétrable. C'est-à-dire que même si vous savez, même si vous êtes un expert du cinéma intérieur, ça ne va pas vous empêcher de continuer à avoir ce cinéma intérieur qui va se déployer de la même façon.
Mais ça rendrait même presque fou d'être au courant de tous les processus. Alors, de les connaître, c'est une chose, mais d'en être conscient à chaque moment. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de vous parler, Lionel Lacache, si je pensais à ça, je ne pourrais pas me concentrer sur ce que vous êtes en train de me dire.
Voilà, donc
on ne vivrait plus.
La solution est simple, c'est que si vous pensiez à ça, vous ne pourriez pas faire deux choses en même temps, parce qu'on a des ressources conscientes très, très, très limitées. Mais donc, absolument. Mais je ne suis pas sûr que ça nous rendrait fous. C'est juste qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre, puisqu'on a, en fait,
on peut constater ça.
On peut le constater, le savoir en arrière-plan, savoir qu'on fonctionne comme ça, mais n'avoir pas d'influence sur le déroulement de ces mécanismes-là, juste de savoir qu'ils opèrent, donc savoir que quand vous percevez du mouvement, cette perception va dépendre beaucoup aussi de vous, va être une construction. Autrement dit, notre perception est très active, en fait.
Mais ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut entendre véritablement, alors, par construction? Vous avez interrogé le « nous », la construction, on est d'accord pour dire que ce n'est pas ex nihilo, que ce n'est pas que du faux, que de l'illusion, qu'on n'est pas en train de recréer un monde commun malgré nous. Mais alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction?
Alors, il y a énormément d'étapes de cette construction et on pourrait peut-être directement même basculer dans des situations qui pourraient donner l'impression que parfois nous construisons tout. Je pense aux rêves, je pense aux hallucinations. Mais en fait, dans ces situations...
Nos souvenirs aussi, peut-être.
Nos souvenirs. Alors, je n'ai pas pris les souvenirs exactement pour une raison, parce qu'en fait, le souvenir est explicitement centré sur une expérience vécue. Alors que là, l'hallucination ou le rêve, de prime abord, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui se joue en nous. Mais en fait, lorsqu'on explore dans des cahiers de rêves, dans des rapports phénoménologiques de ce que les gens ont raconté, eh bien, c'est non pas que c'est extrêmement banal, mais notre imagination est extrêmement contrainte par la réalité de notre existence, de notre expérience. Autrement dit, pour revenir à ce que vous disiez, ce que nous construisons en nous, on ne le construit pas ex nihilo. Et c'est en fait beaucoup plus du réagencement, des télescopages, un petit jeu, J-E-U, mais autour de choses qui sont massivement que nous avons vécues, que nous connaissons. Et pour la mémoire, ça l'est encore plus. Absolument.
Mais par exemple, au quotidien, Lionel Lacache, pour avoir cette impression de continuité qui est construite, on a parlé de la roue qui va d'un point A à un point B, on peut décomposer ce mouvement-là. Mais par exemple, je vous parle, pendant l'entretien, là, vous bougez dans le studio, imaginons. Oui. Vous êtes assis en vrai.
Oui.
Mais imaginons, vous bougez. J'essaye de reconstituer votre mouvement parce qu'en fait, j'étais prise dans ce que vous me disiez. Après tout, est-ce que je peux inventer à ce moment-là et me faire dans ma tête un chemin que vous n'avez pas du tout pris?
Ah oui, c'est tout à fait possible, parce qu'une fois de plus...
Il y a quand même une part d'affabulation.
Ah oui, bien sûr, mais l'affabulation, si on veut l'appeler, on l'appelle comme ça, est on pourrait dire presque systématique, au sens que ce qui va gagner vraiment la scène de notre conscience, c'est à la fois extrêmement riche, mais c'est très pauvre. Je veux dire, c'est très limité plutôt, pas pauvre, mais limité. On a conscience de très très peu de choses en fait. Donc effectivement, on va pouvoir, on pourrait dire, vous savez souvent, nous on n'est pas nécessairement les mieux placés pour être métaphysiciens, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi les choses sont comme ça. Par contre, on peut expliquer, j'aime bien parler de généalogie du comment, c'est-à-dire pourquoi, comment ça s'est, notre cerveau s'est développé pour arriver à ce fonctionnement-là, qui n'est pas une façon de répondre au pourquoi, mais qui est déjà une façon de s'en rapprocher. Et donc, il y a un premier niveau de couche de réponse qui semble presque trivial, évidente, c'est que notre cerveau doit traiter l'information. S'il devait traiter tout ce qu'il y a à traiter, il n'aurait pas les capacités pour le faire, et il serait nécessairement en retard sur le présent. Donc, pour arriver à vivre en temps réel, à la fois, il faut appauvrir, donc limiter la capacité du traitement des informations extérieures, et puis pas seulement limiter, mais également anticiper la suite. Autrement dit, avoir des mécanismes qui vont nous permettre, à partir des données immédiates, de pouvoir fabriquer le futur immédiat et d'agir sur ce futur immédiat. Et donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, la continuité dont je parle, elle est très précieuse, ce sentiment de continuité, ce qui nous permet d'avoir l'impression qu'on a tout vu à partir de quelques éléments sur lesquels on va remplir tout ce qu'on n'a pas vu, et puis d'utiliser cette scène immédiate pour projeter un futur immédiat et avoir donc une impression de continuité également temporelle. Autrement dit, je pense qu'il ne s'agit pas d'un malin génie pervers de fait de ce sentiment de continuité, mais c'est qu'on peut trouver ces justificatifs évolutifs de manière très élémentaire. Si vous demandez, je pense, à un ingénieur du cerveau de nous dire quelles seraient les meilleures façons pour minimiser l'énergie, maximiser la vitesse, assurer un fonctionnement en temps réel le plus efficace, très probablement, on va tomber sur ça, sur le fait d'avoir ces modèles d'interpolation, de remplissage à partir de très peu d'informations et de projection dans un temps un peu continu. Mais pour autant, ça nourrit cette intuition naturelle, mais qui n'est pas nécessairement correcte.
Donc cette impression de répétition ou de continuité dont on part avec ce film Un jour sans fin, Lionel Nakache, elle est due en fait à, d'un côté, l'appauvrissement nécessaire de notre attention et d'un autre côté, la maximisation de cette attention sur un point précis.
Voilà, absolument, mais disons que ce résultat, je pense qu'il est vrai tout le temps, pas seulement comme dans ce film merveilleux où il y a une sorte de phénomène surnaturel avec ce blizzard qui va vraiment le faire entrer lui et pas les autres dans cette conscience de la répétition, de la journée répétition. Mais absolument, ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord avec
ça. Et est-ce qu'il est possible qu'on remplisse mal ces blancs, ces images manquantes? Par exemple, je prenais l'exemple de vous dans ce studio, mais au fond, peu importe, votre mouvement, ça ne changera pas la face du monde. Par contre, si je remplis un blanc en disant cette personne s'est déplacée de cette manière et ça signifie ceci et je le perçois comme ça et que j'en tire des conclusions, ou même peut-être que voilà, j'y vois de la méfiance, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Là, ça devient un mensonge, en fait, plus que du remplissage.
Oui, en tout cas, ou sans nécessairement que ce soit un mensonge, parce que la plupart du temps, c'est en pleine bonne foi que ça se déploie, mais qu'effectivement, dès lors qu'il y a une part de construction, cette part de construction, elle ne va pas être nécessairement contrainte par la réalité objective de ce qui s'est passé. Donc là, moi, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est qu'effectivement, et ça, ce n'est pas nouveau, mais si vous prenez, par exemple, la façon de laquelle on va vérifier ce qui s'est passé, on va avoir besoin de faire une superposition de témoignages. Et tous les systèmes de justice du monde, sans doute préhistoriques, mais historiques, on les connaît dès qu'on a des traces, eh bien, la multiplicité des témoins, de témoins indépendants qui vont pouvoir en toute bonne foi rapporter ce qui s'est passé, vont permettre de pouvoir prendre en compte cette limite qui est immémoriale, qui fait partie de notre condition. Et une façon plus amusante de s'en rendre compte, c'est quand vous retrouvez des amis ou de la famille et vous évoquez un souvenir très ancien, vous allez très rapidement, systématiquement, tomber sur des scènes de cet épisode où des pans entiers de l'événement ne sera pas du tout raconté de la même manière en termes d'intention, en termes de qui a dit quoi, comment, dans quel ordre ça s'est passé, etc. Vous savez, il y a ce film qui s'appelle Rashomon, où vous avez quatre versions d'une même histoire. Mais dans nos souvenirs, c'est comme ça que ça se passe aussi. Donc, premier point, c'est qu'effectivement, il faut en être conscient et ce n'est pas nouveau. Simplement, on peut commencer à mieux comprendre pourquoi ça procède ainsi. Et le deuxième, qui me semble un truc essentiel, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier, et c'est pour je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas oublier qu'en fait, cette façon, cette représentation du monde en nous, si on veut l'appeler comme ça, elle n'est pas posée à côté du monde. Elle n'est pas en dehors du monde comme une sorte de voyeur du monde ou de quelqu'un qui serait à l'extérieur. En fait, notre fiction, notre représentation du monde, elle va jouer un rôle dans le monde puisque c'est à la lumière de ça, comme vous le disiez, qu'on va agir, qu'on va avoir un sentiment de méfiance, de confiance, etc.
De lassitude.
Mais ça veut dire qu'il y a ici souvent un biais un peu qui consiste à imaginer que ce que nous percevons du monde, ce n'est pas le monde. En fait, notre perception du monde fait partie du monde. Voilà. Donc la roue qui tourne et ma perception de la roue, les deux font partie du monde. Voilà.
Le fait que je comble mal une lacune va faire partie du monde.
Exactement.
Et ça va informer le monde.
Voilà.
Même si c'est une totale affabulation.
Elle est dans le monde, elle n'est pas à côté. Et elle joue son rôle et elle va avoir des conséquences causales dans le monde. Elle va être à l'origine d'actions, de comportements.
Et elle va pouvoir être contredite.
Exactement. Et au niveau social, politique, elle va. Donc, un des biais sur lesquels il faut combattre, je pense, c'est ne pas oublier cette impression. Ce que j'appelle, moi, les fictions mentales, pour dire qu'elles sont. Pas pour dire qu'elles sont nécessairement fausses, mais pour dire qu'elles sont elles sont le sens subjectif que les choses ont pour nous, mais qui ne va pas nécessairement se superposer à la réalité objective, si on veut l'appeler comme ça. Mais en tout cas, ces fictions mentales, elles font partie du monde, elles ne sont pas en dehors. Et c'est pour ça qu'on peut dériver une éthique de responsabilité à partir de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de nos fictions, d'une certaine manière, donc, puisqu'elles vont avoir des conséquences dans la vie du monde, dans notre vie, l'existence des autres, etc.
Bonjour la France.
Bonjour à tous, bonjour France Culture.
Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte.
Et on retrouve tout de suite Géraldine Mostasavoie pour Sans oser le demander. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have
have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. Wear my ring, and when I'm sad, you're a clown, and if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't be wrong. Then put your can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe.
Vous feriez quoi, vous, si vous étiez coincé quelque part? Si chaque matin est exactement le même, quoi que vous fassiez?
Ça ressemblerait vachement à ma vie.
J'aimerais vous poser une question.
Vas-y.
Et s'il n'y avait plus de lendemain?
Plus de lendemain? Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de conséquences, il n'y aurait plus de gueule de bois, et on ferait tout ce qu'on a envie de faire. Ah!
Absolument. On pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire.
Et Phil, pour renverser des boîtes à lettres, il n'y avait qu'à laisser conduire Ralph.
C'est la même chanson. Nettoie ta chambre, tiens-toi droit, essuie-toi les pieds, sois un homme, n'embête pas ta sœur, ne mélange jamais la bière et le vin.
Oh oui.
Oui, trois cheeseburgers, deux grandes frites, deux shakes chocolat et un grand coca.
Et oublie pas les gaufres.
Il est trop tôt pour les gaufres.
Une manière de faire face à la répétition de la même journée pour Phil Connors, donc un jour sans fin, Lionel Nakache, c'est de s'en fiche du lendemain et donc de faire ce qu'il veut, ce qui pose bien la question de la responsabilité. Quand on a l'impression de toujours vivre la même chose, quand c'est notre cerveau qui fabrique, qui construit une forme de continuité, qu'en est-il de notre liberté, de notre responsabilité, Lionel Nakache?
Alors c'est une question évidemment fascinante et à laquelle nous n'avons évidemment pas nous plus la question que les autres. Mais les pistes, peut-être une des pistes qui me semble moi la plus intéressante, il y a ce vieux débat philosophique, psychologique, sur liberté, déterminisme, libre arbitre, etc. Voilà, avec différentes facettes, Spinoza, etc. Un des concepts qui, moi, me semble les plus opératoires et les plus immédiatement pertinents pour tout le monde, c'est un concept, alors on lui donne le nom d'agentivité en neurosciences cognitives, et ce qu'on veut entendre par agentivité, c'est du coup le sentiment subjectif que l'action en question ou la pensée en question est bien la vôtre. Est-ce que je suis l'agent de cette pensée, de ce discours et de cette action? C'est une autre question de savoir ensuite quelles sont véritablement les origines de cette pensée, de cette action, de ce discours. Est-ce qu'ils sont totalement déterminés? Alors, il y a tout un ensemble de choses fascinantes dans notre domaine. Il y a des expériences fameuses dites de Libet, Benjamin Libet, L-I-B-E-T, qui avait découvert dans les années 80 que si on vous demande d'appuyer sur un bouton, en gros, on peut savoir que vous allez appuyer sur le bouton une demi-seconde avant que vous-même, vous ayez subjectivement l'impression d'avoir choisi de le faire. Voilà. Alors, ça a évidemment fait développer tout un domaine. La version contemporaine de ces expériences est plus subtile, plus, je ne vais pas détailler pourquoi, mais en tout cas, c'est une question qui reste ouverte, évidemment, savoir. Mais par contre, si on prend l'angle de l'agentivité, autrement dit, on rentre cette fois-ci en caméra subjective. Je suis à l'intérieur de moi, vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous considérez, de votre point de vue subjectif, que vous êtes l'agent de cette pensée, de cette action, etc. À ce moment-là, quelle que soit l'origine objective de cette action, de cette pensée, de ce discours, du fait même que vous-même, subjectivement, vous vous en teniez comme étant l'agent, donc l'auteur, la cause, l'origine, eh bien, il me semble qu'on peut développer une éthique de la responsabilité et de la liberté bâtie sur l'agentivité. Ce qui décale le problème, d'une certaine manière, vous voyez, non pas pour le mettre entre parenthèses, mais pour, à la limite, le construire sur l'élément qui semble sans doute le plus, à mon sens, le plus déterminant, c'est quelle est subjectivement l'attitude de l'agent en question par rapport à ses actions? Est-ce qu'il pense que, on le voit dans les expertises psychiatriques de crime, par exemple, ou par exemple en psychiatrie, Il y a des tableaux, ce qu'on appelle les syndromes d'influence, dans lesquels quelqu'un va avoir des hallucinations auditives. Et la version contemporaine de la compréhension de l'hallucination auditive, c'est en fait un discours qui est produit par le sujet, mais dont il n'a plus l'agentivité. Et donc l'interprétation, c'est que la voix qui émet cet ordre ou cette injonction n'est pas la sienne. Donc là, c'est un désordre de l'agentivité subjective. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas tenir pour responsable quelqu'un qui n'est pas l'agent subjectif. C'est une autre question de savoir comment on arrive à déterminer pour une situation qui est qui. Mais juste pour vous donner le cadre général. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui proposer une éthique de la liberté qui soit construite sur une éthique de l'agentivité. Ce qui décale le problème, je ne crois pas qu'on va le résoudre aujourd'hui,
de
ce qu'on entend.
Est-ce qu'on peut déjà y trouver une solution?
Oui, on peut, en tout cas, pas sous angle de l'agentivité.
C'est difficile de trancher.
En tout cas, on sait très bien que souvent les intuitions naturelles qu'on a sont fausses. C'est-à-dire que, par exemple, imaginer que la liberté, c'est n'être absolument pas déterminé, ça pourrait nous conduire à penser que la liberté absolue, c'est une vie aléatoire, une vie dans laquelle nos états mentaux, nos actions sont totalement non prédites par l'état précédent. Et un état aléatoire, je ne suis pas sûr qu'on appellerait ça de la liberté. C'est-à-dire quelque chose qui est effectivement totalement imprévisible, mais dans lequel il n'y aurait aucune structure. Et à l'inverse, quelque chose qui serait totalement figé ne le serait pas non plus.
Oui, mais en même temps, quand vous dites qu'on appuie sur le bouton, quand quelqu'un nous dit d'appuyer sur le bouton et qu'en fait, on n'a pas eu le temps d'y penser, voilà, cette question de l'agentivité est vraiment permet d'éclairer ça. Mais finalement, est-ce que c'est moi ? C'est-à-dire que est-ce que agent et moi ?
Oui.
Ce que je considère comme Géraldine Moss à Savoie, est-ce que les deux sont identifiables?
Alors, c'est une vaste question. Dans l'expérience de Libet dont je parlais, on vous demandait pas d'appuyer. On vous disait, en fait, la version de l'expérience, c'est on vous disait, il y a un bouton devant vous. C'était justement pour sortir du côté stimulus, réponse, injonction. C'est-à-dire, il y a un bouton. Vous faites ce que vous voulez. Mais si à un moment donné, vous décidez d'appuyer, juste, vous nous dites à quel moment est né en vous le désir et l'intention d'appuyer.
Ah, mais là, on a le temps de réfléchir alors. Là, on peut vraiment se dire
Exactement, c'est pour ça.
Déclencher une bombe.
Exactement. Donc, c'est pour ça que ça se rapprochait beaucoup plus d'un paradigme, disons, de libre arbitre. Mais l'astuce de ce paradigme, c'était que le sujet, donc, c'était assez facile, comme un gros bouton rouge, disons. Et puis, il y avait une horloge qui tournait assez vite pour pouvoir saisir l'heure qu'il était, qui tourne rapidement. Au moment où vous avez l'idée de le faire, et puis vous appuyez. Donc en gros, il y avait trois temps, et puis on enregistrait l'activité cérébrale avec de l'EEG. Et il y avait trois temps. Il y a le moment où la personne appuie sur le bouton, disons. Il y a le moment où elle date, le moment qu'elle a son intention d'appuyer. Et évidemment, pour l'instant, c'est logique, l'intention précédait l'action de quelques centaines de millièmes de seconde. Mais le vrai scoop, c'était qu'en fait, dans l'EEG, on pouvait trouver un signal de début de préparation d'une action qui remontait encore un peu avant. Voilà, donc ça, c'est le paradoxe. J'invite tous les auditeurs à se plonger dans le paradoxe de Benjamin Libet, mais une fois de plus, la version contemporaine est plus subtile que ce que je viens d'en dire.
Alors, dans votre livre, Lionel Nakache, dans le cinéma intérieur, vous dites bien en fait qu'on est à la fois caméra, mais aussi monteur, mais aussi réalisateur, acteur, spectateur en fait de ce cinéma intérieur, ce film subjectif qu'on se crée de notre perception du monde. Comment on peut occuper à la fois tous ces rôles-là ? C'est-à-dire que vous parliez de l'agentivité, distinguer l'agent parmi tous ces rôles, c'est pas pareil d'être acteur que de se regarder. Est-ce que finalement on agit dans la vie aussi pour se voir jouer? Est-ce que on veut juste se voir? Est-ce qu'on est juste un réceptacle d'image? Comment on peut tenir ces rôles-là en même temps?
Alors, on les tient. Alors, ça m'est un tout petit peu difficile de vous répondre rapidement, mais la raison pour laquelle c'était un point très important du fait qu'on occupe dans ce cinéma intérieur, on n'est pas juste le spectateur. C'est pour deux éléments. D'abord, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut rendre compte de tout ce qui se déploie en nous, il y a à la fois le travail de perception, mais il y a également celui de l'action, parce qu'en fait, ce qu'on va percevoir va être aussi guidé par nos actions, par nos intentions, nos désirs, notre vision du monde, nos scénarios. C'est pour ça qu'on a cette multiplicité de vues, en fait. Et le deuxième, c'est un élément plus théorique, je dirais, c'est que dès lors qu'on décrit les choses comme une sorte de scène cartésienne de l'esprit, ou de théâtre cartésien, ou là, on pourrait le faire au cinéma, on peut avoir le risque de tomber dans une vision dualiste, en fait. Et mon livre et ma conception n'est pas du tout dualiste. C'est-à-dire parce que dès lors que vous dites, je perçois le monde en moi, c'est un peu joué comme sur un théâtre, on va dire, mais comment vous le percevez? Et souvent, ça vous oblige à vous dire, en fait, dans ce théâtre intérieur, il y a encore un mini-théâtre avec un deuxième personnage qui lit le théâtre du premier personnage, et vous avez une régression à l'infini. Et en fait, on peut tout à fait développer le cinéma intérieur en échappant à ce dualisme. Donc, il y avait deux raisons pour jouer ces rôles-là. D'abord, parce qu'effectivement, on occupe tous ces rôles, mais c'est aussi pour démontrer que ce n'est pas une vision dualiste du tout, de penser les choses comme ça.
Mais comment on arrive alors à occuper tous ces rôles? Est-ce qu'on arrive vraiment d'ailleurs à distinguer le moment où on joue tous ces rôles-là?
Non, c'est qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, dans beaucoup joue de ces rôles, il y a toute une partie qui n'est pas consciente, qui n'est pas du tout ni consciente, ni volontaire, ni qui mobilise vos efforts. Donc, vous n'en avez pas conscience, moi non plus, et on peut faire d'autres choses. Donc, quand je dis le « nous », je parle « nous » de la personne dans son intégralité. Les aspects conscients et non conscients qu'il a définissent, on pourrait dire. Oui.
Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans votre théorie, Lionel Nakache, c'est d'une part l'idée de montage.
Oui.
C'est-à-dire comment se fait cette sélection, du déni, des oublis, tout ça semble presque malgré nous. Et pourtant, il y a quand même une sélection qui se fait. Est-ce qu'il y a quand même l'idée d'un choix qui peut se faire?
Oui, et il y a au moins deux grandes directions. Il y a d'abord évidemment les choix. On fait des choix. Donc il y a même des choix totalement délibérés, conscients, volontaires. On va décider de s'intéresser à certaines choses et on peut le dire, on sait lesquelles. Donc...
On va décider par exemple qu'on a une passion pour quelque chose?
Oui, absolument. Ou un motif, un centre d'intérêt. Un peu comme si vous êtes dans un buffet de restaurant. Il y a des choses qui vous intéressent, vous les regardez, vous faites attention, le reste vous l'ignorez et vous savez ça. Donc c'est pas vraiment un scoop. Mais là où ça devient plus phénoménal, c'est qu'on a découvert que lorsque vous adoptez une posture consciente particulière, donc qui est guidée par votre connaissance du monde, vos intentions, votre motivation, vos désirs, etc., eh bien, non seulement ça va guider ce dont vous avez conscience, mais ça va influencer beaucoup de processus cognitifs inconscients qui jouent en coulisses. Autrement dit, il ne va pas se passer les mêmes choses inconsciemment en nous selon la posture consciente qu'on adopte. Et là, c'est un autre phénomène vertigineux, c'est-à-dire qu'en fait, notre posture consciente est originaire de modifications de processus non conscients en nous qui eux-mêmes vont alimenter notre conscience. Donc là, il y a un va-et-vient fascinant entre la posture consciente et les phénomènes non conscients. Et je rappelle à nouveau qu'on est hors de tout cadre analytique.
Ce qui repose quand même la question du choix. Parce qu'entre l'inconscient et la conscience, ces va-et-vient qui se font et qui effectivement nous échappent semblent totalement paradoxaux. C'est-à-dire que d'un côté, ils nous appartiennent, ils nous précèdent, ils sont là et en même temps, ils nous échappent.
Exactement. Et donc, on est dans cette zone un peu, non pas grise, mais dans ces va-et-vient, en fait, permanents. Et le fait, une fois de plus, je pense que le fait de le savoir, ça ne change pas votre mode de fonctionnement, mais ça vous donne des clés sur votre fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le fait de valoriser telle ou telle chose, telle ou telle discipline, savoir, attention, affection pour quelqu'un, etc., va évidemment avoir des effets dont on n'avait pas conscience, mais qui sont initiés par votre posture consciente. Donc ça, c'est certain. Ouais.
Et sur la dimension, l'autre chose qui me fascine, c'est le fait de filmer. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction de ce qu'on perçoit. Mais vous avez parlé tout à l'heure des rêves, des souvenirs, des hallucinations. Comment on peut faire la différence entre ce qu'on reconstruit de manière complètement rêvée, irréelle, et ce qui est construit dans la vie réelle?
Alors c'est difficile. Peut-être, en tout cas, la fameuse expérience, question comment distinguer une scène onirique d'une scène réelle, par exemple. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'arguments quand même pour arriver à le faire, parce que dans le rêve et dans la vie réelle, il ne se passe pas exactement les mêmes choses. Et
sur les déplacements, par exemple,
voilà,
sur l'espace, le temps.
Oui, et puis surtout sur le sens critique. La plupart du temps, en fait, dans nos rêves, si vous faites attention, dans nos rêves, en fait, on a un sens critique beaucoup moins aiguisé qu'à l'état de veille. C'est-à-dire que si pendant que je vous parle, vous devenez quelqu'un d'autre, ce qui arrive dans un rêve, en fait. Dans des rêves, on a en permanence des phénomènes de transformation. On est dans un lieu, on est dans un autre, on parle avec quelqu'un, on parle avec quelqu'un d'autre, etc. Et ces choses-là ne nous surprennent pas, n'éveillent pas en nous la suspicion qu'il puisse y agir d'une astuce. Alors qu'en fait, évidemment, si pendant que je vous parle, il se passe quelque chose comme ça, là, je vais trouver une caméra cachée, Donc en fait, il y a des différences. Une de ces différences, ça renvoie au sens critique, qui est une manière de distinguer. Alors, c'est pas la seule, mais j'en donne une. Peut-être, je ne sais pas si c'est... Je repensais au film dont vous parliez, de Bill Murray, parce que ça me refaisait penser dans l'itinéraire de ce personnage, qui est en plus guidé par une sorte de relation amoureuse avec le personnage principal, etc. Pour moi, ça retombait aussi sur cette idée qu'on déployait tout à l'heure du fait de dire « Attention, vos fictions ne sont pas à côté, sont vraiment au cœur du monde. » Parce qu'en fait, quand on suivait si je me souviens bien dans ce film, il commence d'abord par avoir une sorte de fantasme, de puissance, un peu d'omniscience, parce que comme il peut revisiter, il parle avec tout le monde, il connaît tout le monde, il connaît tous les éléments, donc il a une sorte de connaissance divine, omnisciente de cette scène de vie, de cette journée. Ensuite, il passe vers une sorte de désespoir, il se suicide 1000 fois, etc.
Ouais.
Et puis, en fin de compte, il prend conscience que si tout se répète, sa conscience à lui ne se répète pas, en fait. Sa conscience à lui est à chaque fois différente. Et donc, je trouve que ce film-là, c'est comme une sorte d'expérience de pensée qui permet d'aider les gens à prendre conscience de ce que c'est que leur liberté individuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, leur liberté n'est pas nourrie par l'imprévu du monde, mais même dans un monde qui serait totalement prévisible, il y a encore un déploiement intérieur qui, lui, reste imprévisible et qui, lui, reste changeant.
Donc, cette impression de répétition qu'on peut avoir, de lassitude, de refaire éternellement la même chose, est contredite
absolument
par cette imprévisibilité de la conscience, c'est ça ?
Je trouve, ouais. Et du coup, ça
alors pourquoi on a cette impression-là qui vient de notre conscience ?
Et ben, du coup, peut-être qu'on est là dans une logique un peu dépressive. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'aspect imprévisible de notre vie, il n'est pas tant à rechercher dans l'imprévu du monde que dans l'imprévu de nous.
Et qu'en fait, on n'est pas assez attentif à ça.
Ouais, ouais. Et que ce film-là, pour moi, je le voyais comme ça, comme une sorte de leçon de découverte de soi, de dire en fait, si, même si vous viviez dans un monde où vous viviez toujours la même chose, ben vous, c'est pas la même chose.
Parce qu'il faut quand même le dire, ce film est quand même, reste une comédie dramatique par certains aspects, mais quand même une comédie romantique. Oui. Ça se finit bien. Il y a une histoire d'amour, mais effectivement, c'est un personnage qui apprend au fur et à mesure des jours à se découvrir. Il y a un cheminement à travers la répétition.
Exactement. Et ça, c'est, je trouve que moi, c'est ce qui m'avait le plus frappé dans ce film. C'était de dire qu'il y avait presque une leçon philosophique, de dire voilà, même si on imagine que le monde est exactement le même, eh bien, votre intuition n'est pas la bonne. L'intuition, c'est que la nouveauté, elle vient de votre flux de conscience. Parce que le personnage n'a jamais la même conscience un jour ou l'autre. Il sait à chaque fois qu'il répète les choses. Donc, il sait qu'il y avait le jour précédent et l'avant-jour, etc. Il n'est pas lui-même oublié de cette répétition. Et donc, le fait qu'il ne soit pas oublié, qu'il en ait conscience, il vit à chaque fois quelque chose de différent. Et le fait qu'ils vivent quelque chose de différent à chaque fois, si on revient sur cette mosaïque discrète, y a une forme de liberté possible. C'est aussi comme ça que je voyais ce film. Je trouvais que c'était, je ne sais pas si c'était l'intention des scénaristes ou des réalisateurs ou des acteurs, mais je trouvais que c'était assez, assez fort dans ce film.
Eh ben, Lionel Nakache, on ne va pas se quitter tout de suite et on ne va pas écouter encore un extrait de ce film. On va écouter un extrait de La recherche du temps perdu de Proust auquel vous tenez tout particulièrement, que vous nous avez cité lors de la préparation de cette émission.
Je n'avançais dans la chambre qu'avec une prudence infinie. Je me plaçais de façon à ne pas apercevoir la chaise d'Albertine, le pianola sur les pédales duquel elle appuyait ses mules d'or, un seul des objets dont elle avait usé et qui tous, dans le langage particulier que leur avaient enseigné mes souvenirs, semblaient vouloir me donner une traduction, une version différente, m'annoncer une seconde fois la nouvelle de son départ. Mais sans les regarder, je les voyais. Mes forces m'abandonnèrent. Je tombai assis dans un de ces fauteuils de satin bleu dont il y a une heure, dans le clair-obscur de la chambre anesthésiée par un rayon de jour, le glacis m'avait fait faire des rêves passionnément caressés, alors, si loin de moi maintenant. Hélas, je ne m'y étais jamais assis avant cette minute, que quand Albertine était encore là. Aussi je ne pus y rester, je me levai, et ainsi à chaque instant, il y avait quelqu'un des innombrables et humbles moi qui nous compose, qui était ignorant encore du départ d'Albertine, et à qui il fallait le notifier. Il fallait, ce qui était plus cruel que s'ils avaient été des étrangers et n'avaient pas emprunté ma sensibilité pour souffrir, annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces moi qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun d'eux, à son tour, entendît pour la première fois ces mots « Albertine a demandé ses malles. » Ces malles en forme de cercueil que j'avais vu chargés à Balbec, à côté de celle de ma mère. Albertine est partie. À chacun, j'avais à apprendre mon chagrin. Le chagrin qui n'est nullement une conclusion pessimiste, librement tirée d'un ensemble de circonstances funestes, mais la reviviscence intermittente et involontaire d'une impression spécifique, venue du dehors, et que nous n'avons pas choisi.
Albertine disparue, lue par Denis Podalydès. On y entend le narrateur qui raconte sa souffrance suite au départ d'Albertine. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, vous nous en avez parlé pour cette raison, Lionel Nakache, c'est que le narrateur parle non seulement de ses mois successifs, on a parlé des suites discrètes, on retrouve cette idée-là, mais aussi le fait que notre conscience ne sélectionne parfois que des moments clés de notre existence et va se focaliser sur eux.
Absolument, c'est ces deux dimensions et peut-être même une troisième aussi à côté. Alors la première, c'est évidemment pour moi, c'est un des passages que je préfère de la recherche, vraiment qui moi, ma première lecture m'avait vraiment marqué profondément, parce que justement, il y a cette notion de s'envisager comme une collection d'individus, donc comme une juxtaposition de moi, en fait. Donc, à nouveau, ces moi discrets au sens mathématique, ils sont en contiguïté. Il y en a un seul à chaque fois, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Et de le sentir, et là, dans une expérience extrême d'une situation émotionnelle forte, de faire cette expérience, mais que chacun peut faire dans des situations plus ou moins... chacun a ses scènes de discrétion, de multiplicité. Donc, je trouve que ça illustrait très bien cette idée, premièrement. Et deuxièmement aussi, je trouve que peut-être que le fait que ce soit lié de manière romanesque à la disparition ici de d'Albertine, donc à quelque chose qui est de l'ordre évidemment de la tristesse, voire même de l'angoisse, même de la mort ou de la disparition en général, peut-être ça peut nous renvoyer même de manière un peu plus métaphorique sur ce pourquoi de la continuité dont vous parliez. C'est-à-dire que si nous étions vraiment totalement lucides de ce statut mosaïque de notre identité, peut-être que ce ne serait pas une situation très paisible à vivre. Et donc le fait que ce soit révélé dans ce passage romanesque de la recherche par une expérience de très grande douleur, d'extrême douleur, voire du thème de la mort. Il parle des mâles qui ressemblent à des tombeaux, ou à les mâles d'Albertine. Ben voilà, je trouve qu'on peut en faire un raisonnement sur est-ce que, et dans Apologie de la discrétion, je parle de ça, de savoir est-ce qu'en fait, dans les raisons de la continuité subjective du monde, il y a les éléments de performance dont on a parlé tout à l'heure, pour aller vite, pour pouvoir... Mais il y a aussi peut-être une sorte que le sentiment de continuité va nous rassurer, en fait.
Voilà,
que la vie s'est continuée.
C'est réconfortant, ouais. C'est même consolatoire.
Ouais, et que peut-être, absolument, et donner une impression, pour le coup, de cadre continu de nous-mêmes, de notre identité, et de ce que nous vivons, et peut-être en contrepoint, du point de vue pathologique, la maladie peut-être la plus associée à la discontinuité, en tout cas à la conscience de cette explosion, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie, c'est vraiment l'esprit dissocié. Donc on ne peut plus avoir cette unification de la pensée. Donc il peut y avoir une source aussi de réflexion sur pourquoi la continuité, parce que vivre c'est continuer, et que ce sentiment de continuité subjective, il nous est important pour arriver à continuer à exister en fait.
Il y a une adéquation en fait entre ce que construit notre cerveau en termes d'unification et un besoin presque existentiel,
voilà,
pour vivre.
Voilà, absolument. En tout cas, c'est cette piste-là, je trouve, qui est soulignée, qui est par cet extrait, par exemple, et qui peut donner lieu à poursuivre l'échange, des réflexions. Mais, donc ça donne une autre touche, peut-être, cette fois-ci, plus essentielle sur la continuité. Sans qu'on soit obligé d'y adhérer en permanence. On peut vivre continuellement de manière subjective, et en sachant que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
En tout cas, on peut prendre du plaisir à retrouver cette... sans non plus critiquer le côté aliénant de la répétition, des journées répétitives,
oui.
Se dire qu'il y a aussi quelque chose de consolatoire, de réconfortant, en tout cas, dans cette répétition, et pas forcément déprimant, en tout cas.
Voilà, exactement.
Vous avez dit dépressif tout à l'heure, c'est ça ?
Ouais, exactement. Et peut-être qu'au cœur même de la répétition la plus banale, on peut trouver encore une marge de non-répétition, de nous voir nous-mêmes un peu comme il y a moins de lumière, on voit un astre un peu moins lumineux, et là, on prend conscience de nous, de notre liberté, de notre existence, par cette répétition qui nous révèle notre non-répétition intérieur.
Et je retiendrai aussi, Lionel Nakache, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'on soit attentif aux indices de notre conscience, en fait, oui. qu'on soit attentif à eux.
Absolument.
Merci beaucoup, Lionel
Merci beaucoup.
Nakache. C'était passionnant. De vous, on peut lire, donc vous en avez parlé, Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde, et aussi le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, et enfin aussi Parlez-vous cerveau, les trois disponibles aux éditions Odile Jacob. Merci encore.
Merci beaucoup, Géraldine Moss, ça va.
Bonjour la France.
Bonjour à tous, bonjour France Culture.
Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui c'est le jour de la marmotte.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Jacques, Hubert. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.